Voilà, Romains 16. Romains 16, on va lire le texte. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. On va s'arrêter là. Il y a toute une série de salutations dans ce chapitre de Romains, chapitre 16, où Paul avait des gens qu'il connaissait à Rome. Mais maintenant, on sait, d'après le début de l'épître aux Romains, que Paul n'avait jamais été à Rome. Donc certains se sont dit, comment se fait-il que Paul puisse saluer autant de gens à Rome alors qu'il n'a jamais été à Rome? Certains ont dit, eh bien peut-être que ces salutations étaient au départ destinées à des chrétiens qui sont à Éphèse, et puis que, parce qu'il y avait des lettres circulaires qui circulaient d'une église à l'autre, il y a eu un micmac qui fait que les salutations d'Éphèse se sont trouvées dans l'épître aux Romains. D'accord, les salutations qui étaient au départ destinées à des chrétiens d'Éphèse. Mais, en même temps, puisque Paul avait fondé l'église d'Éphèse, qu'il avait vécu 2 ans ou plus à Éphèse, il connaissait beaucoup plus de gens que la petite liste qu'on a dans Romains 16. Et donc, si à Éphèse, ils avaient lu une lettre où Paul ne salue que 4 ou 5 personnes sur, ou disons, 15 ou 20 personnes sur plusieurs milliers de personnes, les milliers de personnes qui sont passées à lui auraient pu dire « Pourquoi pas moi ?» puisque Paul connaissait tout le monde, vous voyez. Et donc, ça paraît difficile que ce soit des salutations adressées à une autre église que celle de Rome, des gens qui ne sont pas à Rome. Mais par contre, l'explication assez logique, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de voyages entre les différentes villes de l'Empire romain, que l'empereur Claude, quelques années avant, avait expulsé des juifs de Rome, qui avaient pu revenir entre-temps parce que Claude était mort, et même avant sa mort, cet avis d'expulsion avait été annulé. Et souvent, ces chrétiens d'origine juive étaient des commerçants ou des artisans comme Priscille et Aquilas. Et donc, ils étaient mobiles, ils bougeaient avec leur affaire, ils s'installaient quelque part, ils construisaient leurs tentes, ils faisaient leur commerce, ensuite ils allaient ailleurs. Là, ils avaient été expulsés. Maintenant, peut-être qu'ils se disent, ben, maintenant, l'ordre d'expulsion est caduque, donc on va revenir à Rome. Enfin, donc tout ça, c'est pas du tout impossible que Paul ait eu connaissance de pas mal de chrétiens qu'il avait connus, soit à Corinthe, soit à Éphèse, soit ailleurs, qu'il savait qu'ils étaient à Rome. De même qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui déménagent, qui vous disent, je vais à Paris, parce que j'ai trouvé du travail à Paris. Vous voyez? Donc, il y avait du mouvement dans l'Empire romain, et ce mouvement dans l'Empire romain peut expliquer le fait que Paul connaissait des chrétiens qui se trouvaient, au moment où il écrit à l'église de Rome, qui se trouvaient à Rome, mais qu'il avait connus ailleurs qu'à Rome. Donc c'est possible que Paul connaisse des chrétiens qui sont à Rome sans avoir lui-même jamais encore mis les pieds dans cette ville de Rome. Vous voyez ? On reprend donc le verset 1 du chapitre 16 de Romains. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Et donc là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est à Rome, mais il s'agit probablement de la personne qui va apporter la lettre de Paul à l'église ou aux chrétiens qui sont à Rome. Elle est probablement porteuse de la lettre que Paul est en train d'écrire. Et c'est pour ça que au moment de conclure sa lettre, la première chose que Paul dit, je vous recommande cette sœur Phoebé, qui est diaconesse dans le sens qu'elle est dans le service de Dieu, tout simplement, et qui fait partie de l'église de Sancré, qui était juste à côté de Corinthe, Et donc, certainement que c'était à Corinthe, quand Paul avait fondé l'église de Corinthe, que Phoebé s'était converti. OK? Donc Paul la connaît bien. Et pourquoi est-ce que c'est elle, est-ce que c'est elle qui porte la lettre? On n'en est pas absolument certain, on va dire que c'est probable. Et pourquoi est-ce qu'il la recommande? Ça, c'est intéressant par contre. Je vous recommande Phoebé. Ensuite, il donne ses titres, il dit d'où elle vient, de quelle église elle vient. Il dit, recevez-la d'une manière digne des saints, donc ça veut dire que je la considère comme vraiment membre de l'église et une chrétienne authentique. Voyez? Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous. Là, il s'agit d'affaires pratiques. Car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Et quand il dit venue en aide, clairement, non, je prendrai après. Clairement, il s'agit d'une aide pratique. Parce que Paul, comment dire, souvent dans ses épîtres, à la fin de ses épîtres, il fait des allusions. Par exemple, à la fin de Timothée, il dit apporte-moi les livres, apporte-moi le manteau. À la fin de Tite, il dit il faut accueillir tel ou tel enseignant qui était itinérant, il faut bien les accueillir, il faut payer leur voyage. Donc il y avait des choses très pratiques dans la première église. Et dans la première église, c'était la norme, c'était que si quelqu'un était vraiment un chrétien authentique et qu'il débarquait dans votre ville, il fallait l'accueillir. Hospitalité, c'était la norme. Hein. Il n'y avait pas d'hôtel. Enfin, quand il n'y avait pas d'hôtel, il y avait des hôtels, mais on n'allait pas à l'hôtel. On allait chez les chrétiens, on s'accueillait les uns les autres, c'était la norme. C'était, pour ainsi dire, une obligation. Vous voyez? Mais ce n'était pas une obligation difficile parce qu'ils s'aimaient, ils s'appréciaient, vous voyez? Mais enfin, Paul, quand même, leur dit de la recevoir d'une manière digne des saints, ça veut dire exercer l'hospitalité, tout simplement. Et puis en plus, si elle a besoin elle a besoin d'argent, elle a besoin comment dire, de quoi que ce soit, ou elle a besoin de trouver un travail, vous débrouillez, il faut que, voilà. Il faut se mettre à sa disposition, parce qu'elle s'est mise à ma disposition, et à la disposition d'autres chrétiens, elle les a aidés tant de fois, et maintenant, voilà, je veux dire, entre guillemets, je dirais pas chacun son tour, mais en tout cas. C'était la norme, c'était normal, vous voyez. On ne laissait pas les gens comme ça, entre guillemets, dans le vent. Et c'était pas chacun pour soi et Dieu pour tous, d'accord? C'était la communauté. L'Église à l'époque était une communauté, pas dans le sens qu'ils étaient tous sous le même toit, mais dans le sens qu'ils se recevaient les uns chez les autres, et que si vous débarquiez dans n'importe quelle église de l'Empire romain et que vous étiez recommandé et que vous veniez d'une autre église, automatiquement vous étiez accueilli chez les gens. C'était, voilà, ça faisait partie, c'était la norme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit je vous recommande? Parce qu'ils avaient un système de, disons quand même le mot recommander revient à d'autres endroits, mais ils avaient quand même un, ils vérifiaient, ils veillaient, parce qu'il y avait aussi des faux chrétiens, il y avait des faux disciples, des faux docteurs, voyez. Et donc il y avait des gens qui pouvaient se faire accueillir avec, vous savez, ces gens qui sont tellement spirituels, pour qu'on vous grattez un petit peu derrière leur spiritualité, c'est des loups dans la bergerie. Hein? Et donc, la recommandation à l'époque était très importante, parce que ça permettait, si vous voulez, de protéger l'Église, justement, de ces loups qui pouvaient s'introduire, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, on aurait besoin de ces deux éléments, l'élément de l'accueil et de l'hospitalité, d'une part, et d'autre part, un élément de vérification, de recommandation, pour que l'Église soit protégée de certaines personnes qui sont là pour détruire. Ça existe, malheureusement. Donc quand Paul dit, Phoebé, notre sœur, diaconesse de telle église, vous voyez, tout ça c'est des recommandations pour dire c'est bon, je la connais, elle fait partie de telle église, elle a tel statut dans cette église en termes de service, en plus elle a un historique, elle est venue en aide à beaucoup, et donc voilà, je vous la recommande. Alors, est-ce qu'il la recommandait parce qu'elle était porteuse de sa lettre, ou bien simplement parce qu'il savait qu'elle allait s'installer à Rome? On ne sait pas. Ensuite, saluer Prisca et Aquilas. Alors, Prisca et Aquilas, on les rencontre dans Actes chapitre 18. On va regarder un peu Actes 18. C'est un couple. Ils fabriquaient des tentes. Et Paul les a connus à Corinthe. Regardez dans Actes 18, verset 1. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Donc là, il est dans une tournée d'évangélisation et d'implantation d'église en terrain vierge. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Donc on l'avait vu, je crois, la dernière fois, c'est là que Paul fait connaissance de Priscille. Alors, vous noterez que dans l'évangile, dans les Actes qui sont écrits par Luc, elle s'appelle Priscille, et dans l'Épître aux Romains, elle s'appelle Prisca. Mais c'est la même. Pourquoi? Parce que Luc, quand il écrit, a tendance à utiliser la manière courante dont on appelle les gens. Luc est très précis. Il est, comment dire, c'est comme si, par exemple, vous savez, souvent, les gens, ils ont un peu deux noms. Hein? Certains m'appellent John, ok? Donc je pense que Luc aurait dit John à mon sujet. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle, par exemple, en Angleterre ou ailleurs. Je sais pas, chaque fois qu'on prononce mon nom Jean-Hugues, c'est presque un cours de français pour les anglophones. Donc je leur dis, je m'appelle John, parce que ça évite. Donc peut-être que Luc aurait dit John à mon sujet. Mais Paul, il aime bien utiliser le nom d'origine. Vous voyez, c'est pour ça que. Par exemple, vous avez Sopater dans les Actes, et puis chez Paul, c'est Sosipater. Donc il y avait comme ça des noms qui étaient un peu diminués, et Luc utilise le diminutif ou le nom courant, et Paul utilise le nom plus officiel, le nom de passeport en quelque sorte. C'est une question d'écriture, hein, faut pas. Donc, Priscille égale Prisca égale Priscille, c'est la même chose. Simplement que ce n'est pas le même narrateur. Et il est dit au verset 4, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. On ne sait pas à quelle occasion, parce qu'après, plus tard, vous verrez dans Actes 19, que Priscille et Aquilas sont partis à Éphèse avec Paul. Ensuite, ils sont restés à Éphèse pendant que Paul allait à Jérusalem. C'est plus tard que Paul va revenir à Éphèse pour implanter l'église d'Éphèse. Mais Priscille et Aquilas ont fait un. Ils se sont, enfin, ils ont aidé Paul. Et on suppose qu'à Éphèse, Paul aurait été condamné à mort. Et quand il est dit, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie, c'est probablement qu'ils sont intervenus et que grâce à leur intervention, qui aurait pu leur coûter la vie à eux aussi, parce qu'avec l'Empire romain, on rigolait pas, eh bien, Paul a été tiré d'affaire. Vous voyez? Mais, vous voyez, il y a quand même ici. Dans ce texte de Romains chapitre 16, et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse relever ce matin, on a un éclairage assez unique qu'on peut compléter avec d'autres passages du même style, mais ça c'est un des plus longs passages du Nouveau Testament qui donne des éléments biographiques sur des chrétiens. Et donc on a un, comment dirais-je, on a un éclairage qui nous permet d'entrer un petit peu dans le quotidien de la première église. Et on se rend compte que les relations dans la première église étaient des relations exceptionnelles dans le sens de l'amour, de se donner les uns aux autres, de s'aider les uns les autres, d'exercer l'hospitalité. Éventuellement d'exposer sa vie pour sauver un frère, vous voyez, on sent que ça fait partie ça fait partie de leur relation dans l'Église du Nouveau Testament. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises. Quand il dit les églises des païens, c'est donc les églises qui ont été implantées dans l'Empire romain, en dehors de Jérusalem. Donc, Priscille et Aquilas ont eu un rayonnement. Si toutes les églises leur rendent grâce, c'est que toutes les églises ont entendu parler de ce témoignage. Ils savent que ces gens-là ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul. Et toutes ces églises qui aimaient beaucoup Paul parce que c'était lui qui les avait implantées, pour la plupart, eh bien, toutes les églises lui sont reconnaissants à ce couple de ce qu'ils ont fait pour Paul. Voyez? Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, non seulement Priscille et Aquilas connaissent Paul, l'ont suivi, parfois l'ont aidé, mais en plus, maintenant qu'ils sont retournés à Rome, probablement parce que l'édit de Claude a été caduc, comme on le sait au niveau historique, eh bien, ils ont une église dans leur maison. Vous voyez? Donc, ils font le travail du Seigneur. Donc, on voit que ce sont vraiment. Alors, leur titre ici, c'est Compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Vous voyez? Compagnons d'œuvre. Compagnons d'œuvre, c'est au verset 3. Donc, ça veut dire que il n'y a pas tellement. Vous remarquerez qu'à part le titre de diaconesse de l'église de Sancré pour Phoebé, il y a peu de titres. Vous voyez? Comment dire? On n'a pas l'impression que Paul s'inquiète trop de est-ce qu'ils étaient anciens, diacres, apôtres. Ça l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéresse plus, c'est le fait qu'ils travaillent avec lui dans l'œuvre et que finalement ils font le travail. Oui. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Alors, quand il dit les prémices, c'est très intéressant cette expression. La première personne qui se convertit dans une région, pour Paul, il appelle ça les prémices. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, il y avait tout un enseignement sur les premiers fruits. Quand il parle des prémices, il pense aux premiers fruits. Vous voyez? Les premiers fruits étaient consacrés à Dieu. Ils étaient particuliers. Ok? Parce qu'ils annonçaient la récolte. Et c'était une offrande. C'était une offrande. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que. C'est que. Paul considère au chapitre 15, on l'a vu, que les païens sont comme une offrande à Dieu. Et que lui, il est sacrificateur dans le temple de Dieu. Et qu'il offre, il présente les païens qui sont convertis à Dieu comme une offrande sanctifiée par l'Esprit Saint. Et puis là, il dit, Épaïnette, les prémices de l'Asie. Bon, l'Asie, c'était une région en Asie mineure, la Turquie actuelle. Et il dit, c'est le premier qui s'est converti avec sa famille dans cette région. Et donc, c'est les prémices. Donc, de nouveau, on a ce vocabulaire de l'Ancien Testament, des sacrificateurs. Et on a cette notion que ceux qui se convertissent sont, comment dire, ils sont présentés à Dieu comme une offrande. Et aussi, on a cette notion que lorsque quelqu'un, la première personne qui se convertit dans une région, c'est une percée spirituelle, parce que ça veut dire qu'après cette personne, il y en aura d'autres. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un premier. Et cette percée spirituelle, en termes d'évangélisation et d'implantation d'église, c'est très important. Quand vous arrivez quelque part, vous travaillez jusqu'à ce qu'il y ait la première conversion. Vous voyez? Et cette première conversion, c'est spirituellement, c'est comme les prémices. Il y a une récolte qui arrive, vous voyez? Je regarde ici s'il y a autre chose à dire, parce que j'ai une petite liste. Maintenant, saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Alors, on ne sait pas quelle peine elle a pris, on ne sait pas ce qu'elle a fait, d'accord? mais c'est relevé par Paul. Et donc, comme quoi, il n'y a pas seulement le fait qu'on est sauvé par la grâce et qu'on aura tous notre ticket pour le ciel, mais ce qu'on fait pour le Seigneur dans l'Église, tout ça, c'est pas oublié. Vous voyez? Tout ça, ça a du poids et ça a de la valeur. Alors, comment est-ce qu'elle avait pris la peine? Bon, on ne sait pas. Saluer Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres et qui même ont appartenu à Christ avant moi. On n'est pas sûr de Junias si c'est une femme ou un homme. Donc ça pourrait être un couple, au même titre que Priscille et Aquilas, ou alors c'est deux, on ne sait pas. D'accord, ça pourrait, en tout cas, Junias peut être un nom féminin ou masculin en grec, donc on n'a pas de, voilà, ça fait partie de ces noms qui sont, c'est comme si je vous dis Claude, ça peut être une femme ou un homme, ou bien Dominique, vous voyez, c'est un peu, donc là on ne sait pas. Si c'était une femme, ce serait intéressant, parce que comme ils sont très estimés parmi les apôtres, on peut penser qu'ils sont eux-mêmes apôtres, et ça veut dire qu'il y avait une femme qui était apôtre. Mais ça, c'est des suppositions. Mes compagnons, alors mes parents, ça veut dire probablement qu'ils sont juifs comme Paul. Mes compagnons de captivité, ils ont été en prison avec lui. Il y a les compagnons d'œuvre et puis il y a les compagnons de captivité avec Paul. Hein. Et puis, chose intéressante, il dit, et qui même ont appartenu à Christ avant moi. Ça veut dire que, aux yeux de Paul et dans l'Église du Nouveau Testament, l'ancienneté a un, comment dire, ça a un poids, vous voyez. C'est vrai que, comme dit un auteur français, la valeur ne fait pas le nombre des années. Enfin, dans le sens que c'est pas le nombre des années ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de la sagesse. Et même dans la Bible, il y a un texte qui dit que parfois, il y a des jeunes qui sont plus sages que les personnes âgées. Donc, mais le fait qu'il ait appartenu à Christ avant Paul, ça veut dire qu'il s'est converti très tôt dans l'histoire de la première Église. Voyez, et à l'époque, ça avait du poids parce que ça voulait dire qu'ils ont été témoins avant nous des tout premiers moments du réveil, des tout premiers moments de la naissance de l'Église qui était des moments très particuliers, vous voyez. Donc ils étaient des anciens convertis, plus ils étaient proches des temps particuliers qui avaient été vécus. C'est comme aujourd'hui quand vous rencontrez quelqu'un qui a connu un réveil en France dans les années 50 par exemple et qui vous raconte ce qu'il a vécu, eh bien ça nous touche particulièrement d'entendre son témoignage. On sait que cette personne elle a vécu des choses que nous n'avons pas vécues, et donc ça lui donne un recul que nous n'avons pas, vous voyez. Verset 8. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Donc si vous cherchez des noms pour vos enfants, hein, Ampliatus, ça peut faire bien. Alors, ce nom a été porté par plusieurs membres de la famille impériale. Il y avait des gens de la famille, peut-être impériale, dans cette église aussi. Hein? Il dit simplement ici, il n'est pas compagnon d'œuvre, il n'est pas compagnon de captivité, il n'est pas... Mais mon bien-aimé dans le Seigneur. Ok ? Donc on ne voit pas qu'Ampliatus ait fait quelque chose de particulier, mais il y a toujours cette relation, rappelez-vous, on est dans l'Église du Nouveau Testament, et on parle les uns des autres, regardez comment est-ce qu'ils parlent les uns des autres. Si on s'arrête une seconde, qu'on se dit, comment est-ce qu'ils parlent les uns des autres? Vous voyez? Il ne dit pas, ah, et puis Ampliatus, oui, bon, je ne voudrais pas ce que je pense de lui, mais vous pouvez le saluer si vous voulez. Non, il n'y a pas cette espèce de, vous voyez, de mentalité. Il n'y a que des paroles positives, d'amour. Alors, sauf, oui, dans une épître de Jean, il dit, tenez, on va prendre un exemple quand même, pour que vous n'ayez pas l'impression que c'est le monde des bisounours, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas recommandés. peut prendre une sorte de contre-exemple dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, juste avant Jude Apocalypse, verset 9, il n'y a qu'un chapitre. Hein. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, il y a un certain Diotrephe qui crée des problèmes. Il avait un esprit de contrôle, il voulait être le premier, il ne voulait pas recevoir certains apôtres. Ne pas vouloir recevoir l'apôtre Jean, il fallait vraiment en avoir une dose. Hein. Vous voyez, il y a des gens comme ça, tout à coup, qui se croient arrivés et qui veulent prendre le contrôle. Ce n'est pas du tout la mentalité du Nouveau Testament, ça. Vous voyez.
C'est plus l'autorité, c'est la domination.
C'est la domination. Et donc, là, on a, en l'occurrence, un apôtre qui dit attention à telle personne parce qu'il nous crée des problèmes. Donc, ça peut se dire aussi, parfois. Vous voyez. Notez que dans cette troisième épître de Jean, elle est adressée à qu'une seule personne. C'est pas adressé à une église comme à Rome. Voyez. Mais dans la manière dont Paul salue les uns et les autres, eh bien, on voit le cœur de Paul, on voit son amour, on voit son appréciation. Voyez. Saluer Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Il y a quand même la différence entre les bien-aimés et les compagnons d'œuvre. Vous voyez, compagnons d'œuvre, c'est des gens qui ont travaillé avec Paul, tout simplement. Saluer Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Ou alors, je préfère la traduction, il y en a qui disent qui est éprouvé en Christ, en fait, qui est approuvé de Christ. L'approuvé de Christ, littéralement. Saluer Apelles, l'approuvé de Christ. Alors, est-ce qu'il est approuvé de Christ parce qu'il a triomphé dans l'épreuve? C'est possible.
Qui a prouvé son attachement.
Pardon, comment c'est marqué chez toi?
Qui a prouvé son attachement au Christ.
Qui a prouvé son attachement au Christ.
Et moi,
oui. Qui a prouvé. Donc tout ça, c'est, littéralement en tout cas dans le texte, c'est l'approuvé de Christ. Donc on peut ensuite interpréter, chercher à comprendre qu'est-ce que Paul entend par là. Probablement qu'au travers d'épreuves, il avait prouvé son attachement à Christ, c'est possible, mais on n'en est pas absolument certain. En tout cas, il a fait ses preuves, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez toutes ces notions, compagnon d'œuvre, compagnon de captivité, bien-aimé, mais quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est pas juste un bien-aimé, vous voyez ? Dans le sens que, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien-aimé, évidemment, mais c'est dire, voilà quelqu'un qui a passé certaines étapes, et on peut dire qu'il est approuvé en Christ. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est bon, là, vous avez des chrétiens qui sont jeunes dans la foi. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves, vous suivez ? Ils sont bien aimés, comme des enfants dans une famille. On les aime d'autant plus, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont inexpérimentés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait leurs preuves. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà servi dans l'armée, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu leur baptême de feu encore. Du feu, comprenez ? Mais on les aime. Ils font partie des bien-aimés. Donc vous voyez qu'on peut quand même discerner, au travers de ces salutations, comme des stades de maturité, de foi, d'expérience dans le Seigneur qui sont reconnus par Paul. Et qui font que, d'une part, si, autant c'est vrai qu'on est tous en Christ, on est tous au même niveau. On a tous besoin de la grâce de Jésus, on est tous, sans Jésus, on est tous perdus. Autant dans la vie de l'Église, il y a des différents niveaux de maturité, d'expérience, d'épreuve, de peine qui a été prise, de tribulation, d'avoir été en prison ou pas pour Christ. En Chine, les pasteurs enfin dans la Chine persécutée, peut-être que maintenant ça, c'est en train de changer, mais quoi qu'elle est toujours persécutée d'une certaine manière, mais il y avait une époque en Chine où les galons que les pasteurs prenaient, c'était le nombre d'années qu'ils avaient passé en prison. Si un pasteur est passé 20 ans en prison, on estimait que c'était bon, c'était quelqu'un de solide. Vous voyez? Et il y en a qui ont passé 40 ans en prison, en Chine. Oui. Donc ça, en Chine, c'était, voilà, éprouvé en Christ, c'est ça que ça voulait dire. Il y a encore peu de temps. Et ces gens-là, ils sont encore en vie, certains. Ouais. Donc, il y a différents niveaux de maturité en Christ. Ok? Et donc, ça veut dire aussi qu'on a besoin de temps. Les choses, enfin, on ne devient pas mature en 5 minutes. Il y a besoin de temps. Il ne faut pas être impatient avec l'Église du Seigneur. Ceux qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la maturité, il faut les aimer. Oui. Il y a besoin de beaucoup d'amour au début de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on est fragile. On est, comment dire? Et le jeune chrétien, il est fragile. Donc il a besoin d'entendre qu'il est bien aimé. Vous voyez? Mais après, à partir d'un certain, certaine mise à l'épreuve, vous n'avez plus tellement besoin. On apprécie tous d'être des bien-aimés, on peut tous se le dire, mais ça devient moins important parce qu'on sait que Dieu nous aime. Ça a été, vous voyez, c'était imprimé en nous. Saluer Hérodion, mon parent. Saluer ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Alors on va s'arrêter un peu sur la maison de Narcisse. Il semblerait qu'il y ait eu à l'époque romaine un certain Tibère Claude Narcisse. C'était un esclave affranchi de l'empereur Tibère, qui était finalement exécuté. Et comme ses biens avaient été confisqués, ses esclaves seraient devenus propriété impériale. Et donc on avait appelé ces esclaves Narcissiani, donc ceux de Narcisse. Les esclaves qui avaient appartenu à Narcisse, qui était quelqu'un d'important au niveau politique à l'époque, si on fait une sorte de transposition. Et donc, voilà, on se demande s'il n'y a pas un rapport, quand il dit la maison de Narcisse, c'est pas nécessairement la famille au sens de papa, maman et les enfants, c'était peut-être des esclaves qui avaient appartenu cet homme riche et important de la ville de Rome de l'époque. Vous voyez? Ce qui voudrait dire que parmi ces esclaves de la maison de Narcisse, il y aurait eu des chrétiens et que Paul s'adressait à eux. Mais bon, ça c'est des suppositions, on n'est pas. Vous voyez? C'est des suppositions. Donc le mot maison est beaucoup plus large qu'aujourd'hui, hein. Une maison, ça pouvait être. Vous voyez, il y avait non seulement les parents, mais. Il y avait les serviteurs, il y avait les cousins, il y avait toute une. Il y avait les boulangers, les jardiniers, il y avait tout le monde. Hein. Donc il dit ceux de la maison d'Assise qui sont dans le Seigneur, donc tout le monde n'est pas dans cette maison, mais il y en a qui sont au Seigneur. C'est un petit peu comme si vous aviez dans votre entreprise quelques chrétiens qui se réunissent pour prier et qui font partie d'une même entreprise. Voilà, si on veut actualiser. Saluer Tryphène et Tryphose, là aussi si vous voulez des noms pour vos filles, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Alors, on se demande si c'était des jumelles, parce que ça arrivait qu'à l'époque, quand vous aviez des enfants qui étaient jumeaux, on leur donne des noms qui se ressemblent. Mais c'est une supposition. Donc voilà des femmes là qui travaillent pour le Seigneur, se donnent de la peine. Donc, est-ce qu'elle exerçait l'hospitalité? Est-ce qu'elle s'occupait des pauvres? On ne sait pas, mais certainement qu'elles étaient actives. Dans le domaine social, la première église était très importante. Perside, ça veut dire qui vient de Perse. Est-ce que c'était une esclave d'origine iranienne? C'est possible. Vous voyez? Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. qui a beaucoup travaillé. Vous remarquerez juste, je ne sais pas si c'est, comment dire, un petit détail que je n'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant. Si en le lisant avec vous, ça me vient. Paul dit de Stakis ou de, qui encore, Hérodion, ou bien, enfin, un tel ou un tel, il dit « mon bien-aimé ». Quand il parle d'une femme, il ne dit pas « ma bien-aimée », il dit « la bien-aimée ». Vous suivez? Pour des raisons évidentes. Hein? Certainement que c'était lui qui les aimait en Christ de la même manière. Mais en termes de la manière dont vous parlez, même quand vous êtes dans le domaine spirituel, parce qu'on est toujours sur la terre, on fait attention à la manière dont on parle. Et dans l'Église, il faut, par exemple, Paul dit, on va lire ça dans Timothée. On verra dans Romains 16 après. Il faut un petit peu de tenue. Dans la première à Timothée, je crois. Voilà. Un Timothée 5. Verset 1. Là, on a un concentré de... Le conseil que Paul donne à Timothée en ce qui concerne la manière dont il doit se conduire dans ses relations, 1 Timothée chapitre 5, dans ses relations avec les chrétiens d'Éphèse, parce que là, Paul a envoyé Timothée plutôt à Éphèse pour s'occuper de l'église d'Éphèse, et il lui dit « ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui dire ses quatre vérités, si il faut lui dire ses quatre vérités, mais tu ne lui dis pas avec violence, parce qu'une personne âgée, elle mérite un respect, même s'il est dans l'erreur. Voyez. Donc tu lui parles comme un père, donc tu prends des gants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui dire la vérité, mais tu le dis, voilà, comme il faut le dire. Les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes, sous-entendu femmes, comme des sœurs, et là, il rajoute en toute pureté. Vous voyez? En toute pureté, ça veut dire, si vous voulez, la complicité spirituelle peut être un piège. Et parfois, dans certaines églises, il y a eu des problèmes d'adultère, parce qu'il y avait un homme et une femme qui avaient une sorte de complicité spirituelle, dans le sens qu'il y avait... on avait la même pensée prophétiquement, on est au même niveau, etc., etc., et blablabla. Puis finalement, on est tellement dans la même pensée qu'on tombe dans le piège. Voyez. Et donc, vous voyez, la conduite des chrétiens à l'époque était pure, voyez, était équilibrée, était saine. Quand c'est un homme, il dit « mon bien-aimé ». Quand c'est une femme, il dit « la bien-aimée ». Hein ? Ça veut dire que je ne suis pas le seul à l'aimer. Elle est la bien-aimée de l'Église du Seigneur, et puis voilà. Enfin, et donc, moi aussi, mais pas moi. Enfin, vous voyez, je ne veux pas... Hein. Ok. Saluer Rufus. Alors, Rufus, c'est un cas intéressant. L'élu dans le Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Vous avez remarqué qu'il dit l'élu. Les autres, c'est bien-aimé, compagnon d'œuvre, tout ce que vous voulez. Et puis là, étonnamment, pour Rufus, Paul utilise un terme. Alors, on est tous élus, hein. On est tous choisis par Dieu, d'accord? Vous avez été élus par la présence de Dieu, dit Pierre dans sa première épître. Donc, on est tous des élus. Mais pourquoi, pour lui, Paul souligne le fait que c'est un élu dans le Seigneur? On peut se poser la question. Alors, je vous lis un peu le commentaire Alors c'est un nom, d'abord Rufus, c'est un prénom qui est très répandu en Italie et un peu partout, donc c'est pas étonnant qu'il y ait un Rufus à Rome. Mais on trouve un certain Rufus dans Marc 15, 21, regardez avec moi, dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Quand Jésus porte sa croix, ou bien... Marc 15. Voilà. Vous savez qu'il y avait un certain Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait le faire, mais c'est parce que les soldats romains voyaient que Jésus n'arrivait plus à porter sa croix parce qu'il avait été déjà battu de 40 coups, moins un, donc son dos était complètement lassé, enfin, détruit, et donc il n'avait plus la force de porter la croix. Comme il n'arrive plus à la porter, c'était au condamné de porter sa croix, et bien les soldats prennent le premier venu, qui était un gars qui rentrait de son boulot, hein, et puis qui arrive là au milieu sans savoir trop. Vous savez, ça faisait partie de la vie, il y avait des gens qui étaient condamnés. Et donc, tout à coup, hop, on le prend par l'épaule, on dit, toi, tu portes la croix du condamné. Là. Vous voyez? Donc ça se trouve comme ça. Et donc, verset 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Vous voyez? Alors, pourquoi Marc? Parce que d'après une certaine tradition de l'ancienne Église, Marc aurait écrit son évangile pour l'Église de Rome. Donc, quand il dit à l'Église de Rome, au fait, quand je vous parle de Simon de Cyrène, c'est le père d'Alexandre et de Rufus, sous-entendu que vous connaissez. Parce que pour nous, quand on lit l'évangile de Marc et puis qu'on sait que Simon de Cyrène est père d'Alexandre et de Rufus, ça ne nous dit rien. On dit oui, et après, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, je veux dire. Mais, pour les gens de l'époque, ils savaient de qui il s'agissait. Parce que dans la première église, on se connaissait les uns les autres. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme si Marc, en écrivant son évangile, il dit, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix. Vous savez, Simon, le père d'Alexandre et de Rufus. Ah oui, lui, d'accord. Comprenez, parce qu'il y avait des prénoms qui étaient assez courants, il fallait. Donc ce serait tentant d'identifier Rufus au fils de Simon de Cyrène. Maintenant, il dit que la mère de Rufus est aussi la mère de Paul, dans le sens, non pas qu'ils soient frères, parce que je veux dire, Simon de Cyrène n'est pas un juif et Paul est juif. Et Simon de Cyrène, il est la Cyrène, donc la Cyrénaïque, c'est l'Afrique du Nord. Donc il est africain. Ok. Mais si sa mère est aussi la mienne, ça veut dire que la mère de Rufus, donc ou la femme de Simon de Cyrène, a pris soin de Paul à un moment donné comme une mère. On est bien d'accord. Ça, c'est très probable, parce qu'à l'époque, il y avait cette hospitalité extraordinaire, et certainement que c'est un moment où Paul avait vraiment besoin d'être tapé, que cette femme, elle a pris Paul sous son aile en disant, attends, moi je vais te faire un bon bœuf bourguignon, et puis, enfin oui, je veux dire. Hein? Alors, il y a un certain Siméon, surnommé Niger, qui fait partie des premiers prophètes et docteurs qui sont à Antioche. Et si ce Siméon surnommé Niger était le fameux Simon de Cyrène qui avait porté la croix de Jésus, c'est possible? Et à ce moment-là, puisque Paul a été ramené par Barnabas à Antioche pour prêcher l'évangile, et que ces cinq-là, Siméon surnommé Niger, Barnabas, il y avait une équipe de cinq là, que vous avez regardez dans Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, ça pourrait être Simon de Cyrène, okay. Lucius de Cyrène, Ménachem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire Paul. Donc ils sont ensemble, une équipe de leaders. Paul est donc dans une équipe de leaders où se trouve Simon de Cyrène. Donc ce n'est pas du tout impossible qu'à ce moment-là, la femme de Simon de Cyrène ait traité Paul comme un fils et qu'il venait manger chez eux, puisqu'il y avait l'hospitalité, que c'était la vie était communautaire, vous voyez, en bonne partie. Et donc, Paul, à ce moment-là, a connu les deux fils de son collègue Simon, Alexandre et Rufus, il a connu la mère d'Alexandre et Rufus qui a été pour lui comme une mère aussi, Et quand il écrit à l'église de Rome, où, pour X raisons, parce qu'il y a des déplacements dans l'Empire romain, cette famille se serait déplacée de Antioche à Rome, vous voyez, et il dit au fait, saluez Alexandre et Rufus, d'accord, et puis aussi leur mère qui était une mère pour moi. Ça marche? Donc ça, c'est des suppositions. Disons que c'est plausible, mais on n'a pas de preuve absolue. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il dit l'élu dans le Seigneur. Et par contre, excusez-moi, tout à l'heure j'ai parlé d'Alexandre, il ne cite pas Alexandre ici. Vous voyez. Alors est-ce que Alexandre, lui, pour X raisons, n'aurait peut-être pas suivi le Seigneur, et c'est Rufus qui aurait suivi le Seigneur, et Paul l'encourage en disant, sinon tu as choisi, et ne te laisse... C'est peut-être pour ça qu'il serait marqué l'élu, vous voyez. On ne sait pas. Saluer Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Donc, toute une série là de noms. C'est des noms qu'on retrouve... qu'on retrouve, il y a aussi Julie, enfin, c'est des noms qui étaient connus à l'époque, c'est lui Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi que Colimpas ou Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Donc là, il se rappelle encore d'autres personnes, vous voyez, mais il ne fait pas de mention particulière par rapport à ces gens, il les cite simplement en série comme ça, hein. Le nom de Julie pourrait faire penser à quelqu'un de la famille impériale. Cette hypothèse est renforcée par le fait que Philologue est un nom que l'on rencontre fréquemment dans les inscriptions de la famille impériale. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la famille impériale. C'est possible qu'il y ait eu des gens de la famille impériale qui faisaient partie des chrétiens de Rome. Hein? Déjà à l'époque. Et puis au verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Alors, on retrouve cette, on pourrait appeler ça, cette tradition du saint baiser dans 1 Corinthiens 16, verset 20, à la fin, donc la première épître aux Corinthiens, verset 20, « Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Vous voyez? Eh bien, ce baiser de paix fait encore partie de la tradition, de la liturgie, plutôt de l'Église orientale. Donc l'Église orthodoxe en Orient, il y a un moment donné quand ils se réunissent, où il y a le saint baiser. Vous voyez? Ça se fait aussi des fois dans l'Église catholique. Et puis, on a Justin Martyr. Justin Martyr qui est du 2e siècle, je crois, qui dit « Quand nous avons terminé nos prières, nous nous saluons les uns les autres par un saint baiser. » Voilà. Donc ça veut dire que ça faisait partie de la tradition, de la manière de faire des premiers chrétiens. Ils se saluaient les autres par un saint baiser. Ok? Où est-ce que j'en suis, là? Attends, ah oui, j'étais dans Corinthiens, alors je ne me retrouvais plus. Toutes les églises de Christ vous saluent. On continue verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Bien, on va prendre ce passage tout à l'heure dans notre deuxième partie, à partir de 10 heures, et on va faire une petite pause. On prendra verset 17, d'accord? À tout de suite.